Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, c'était l'ambiance depuis quelques minutes avec les films, musique et puis personnages des films de Marcel Carné. Alors, je vous le rappelle, c'est Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, 11h, vous voyez, c'est vraiment l'heure annoncée pour le bouquin, le livre de Philippe Morisson, donc sur Marcel Carné, je vous l'ai annoncé à partir de 10h, de vous dire que Philippe Morisson viendrait dans le studio de Radio Libertaire présenter alors son dernier ouvrage, donc des textes de Marcel Carné, qui ciné-reporter, le titre, 1929-1934, et publié à la Tour Verte. Donc Philippe Morisson est dans le studio. On va voir, Philippe, tu m'entends?
Oui. Tout à fait, ouais.
Eh bien, ça marche
bonjour
bien.
Bonjour à tous.
Voilà, ça marche bien. Donc, on va essayer de régler, puisqu'en même temps, il y a une émission enregistrée, on vous dit ça, à Radio Libertaire, aujourd'hui dans l'autre studio. Et ça va, je pense, bien se passer si on n'a pas, sans écoute, de ce qui peut se passer dans un autre studio. Alors Philippe, cet ouvrage, alors je te disais aussi pour te présenter, t'es venu plusieurs fois dans cette émission, et on parlait tout à l'heure, je te disais, la rencontre, puisqu'on va parler de Marcel Carné, qu'est-ce qui a déterminé pour toi le fait que tu t'es intéressé à Marcel Carné, et pas seulement intéressé, après ça a été la révélation d'une passion.
Tout ça s'est fait un peu sans trop y penser. Moi, mon choc au début, le film de Carné qui m'a vraiment fait un choc, ça remonte un peu loin, ça remonte aux années 80, c'est un film qui se déroule pendant qui s'est réalisé pendant l'occupation, qui s'appelle Les Visiteurs du Soir, avec Arletty, Jules Berry, Alain Cuny, Marie Déa. Et donc ça, c'est un film qui m'a fait vraiment un gros choc. Surtout que avant, moi, j'aimais plutôt les films de la Nouvelle Vague, À bout de souffle, des choses comme ça. Et là, j'ai découvert un autre style de cinéma. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je sais pas, ça m'a fait un choc. Puis ça s'est fait après de fil en aiguille, en fait. Donc plus je voyais des films de cette époque et des films de Carné, plus je les trouvais vraiment bien. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, après je me suis mis à commencer une collection de photos, d'affiches, de dossiers de presse, des choses comme ça. Et puis arrivé aux années 2000, là j'ai décidé de faire un site parce que je savais que le centenaire de Carné arrivait. Et à l'époque sur internet, on était en 2005, il y avait pas grand-chose par rapport à Carné, il y avait des petites biographies un peu de base, mais on trouvait pas beaucoup d'informations, et comme je trouvais que c'était quand même des films quand même assez connus, il fallait quand même leur donner un peu plus d'audience.
Ouais.
Donc j'ai créé un site comme ça avec les moyens du bord, et puis après après c'est devenu ce que c'est devenu maintenant, donc c'est après ça a pris grâce à ça, en plus j'ai pu rencontrer des différentes personnes du milieu qui ont pu m'aider à différents niveaux, donc là du coup maintenant le site il est assez conséquent, donc j'ai décidé un peu d'arrêter un peu de le mettre à jour régulièrement parce qu'il y a déjà beaucoup. Et puis j'ai envie de me garder aussi des choses de côté pour des futurs livres ou peut-être de futurs documentaires aussi, parce que comme maintenant ma collection devient assez importante, donc
alors ça pour y accéder tu peux le On peut en parler aux auditeurs tout de suite pour aller sur ton
Sur le site.
Oui.
Donc c'est le www.marcel-carnet.com.
Oui, voilà. Vous faites simplement Marcel Carné,
Oui, parce que si vous tapez dans Google Marcel Carné, je suis dans la première page de
Voilà,
Google.
Vous trouvez tout de suite, Donc, ça c'est une chose importante puisque il y a quand même des extraits de films.
Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des interviews, il y a des articles sur les films, des photos évidemment. Il y a des moi j'ai aussi quelques documents sonores. J'ai deux interviews inédites assez rares de Carné sur le site qu'on peut écouter. On devrait écouter, je pense, un extrait
oui,
tout à
écoute,
l'heure.
Oui, on va écouter.
Donc y a, voilà, il y a des choses comme ça assez rares. Dernièrement, là, ce que j'ai, le dernier gros truc que j'ai mis en ligne rare, c'était au mois d'août pour fêter. C'était le 110e anniversaire, le 18 août de la naissance de Carnet. Mmh. Et pour fêter ça, j'ai mis en ligne un document que j'avais acheté en pellicule 16 mm il y a quelques années. En fait, c'est un reportage d'actualité en 1949 sur le tournage d'un film avec Gabin qui s'appelle La Marie du Port. Mmh. Et c'est l'intérêt de ce document, c'est qu'on voit donc le tournage du film au studio à Joinville, à Saint-Maurice.
Ouais.
Donc c'est quand on s'intéresse à ce cinéma-là, même si on s'intéresse pas à ce film, c'est intéressant de voir comment on tournait en studio à l'époque.
À l'époque. Alors justement, quand on va évoquer l'ouvrage là qui vient de, c'est sorti. Alors je vous le rappelle au mois de mars,
oui, hein,
c'est ça, de cette année. Donc Marcel Carnet, ciné-reporter, on reviendra sur le rôle important justement de la caméra. Mmh. Hein, le personnage de la caméra. Mmh. Alors, je voulais dire, juste ton actualité, tu reviens de Lyon. C'était quoi alors à Lyon,
bah,
le festival?
Voilà, le festival Lumière, ouais, qui a lieu ça chaque année à cette époque, au mois d'octobre. Donc c'est un festival qui célèbre, il n'y a pas de prix, ils remettent pas de prix, c'est l'intérêt. Et en fait, ils célèbrent le cinéma de patrimoine au sens large, parce que ça va être des films, là, il y avait des films de Park Chung-woo, qui est un cinéaste coréen actuel. Hein, donc, mais ça permettait de redécouvrir ces films des années 2000. Il y avait donc évidemment les films de Carnet, une grande rétrospective. Il remettait un prix à Catherine Deneuve. Il y avait Tarantino qui était là. C'est vraiment au sens large. Il y avait aussi des muets. Ils ont projeté L'Inhumaine de Marcel L'Herbier dans une version restaurée. Enfin, moi j'ai découvert ce festival dont j'avais juste entendu parler avant. Et c'est vraiment un bon festival. C'est des bonnes conditions pour voir les films. Les salles sont bien. Et puis à chaque séance, surtout pratiquement chaque séance est présentée par quelqu'un du milieu qui vient parler sur tel film.
Alors je voulais juste l'importance que ça peut avoir, parce qu'on évoquait pour l'intérêt que pouvaient porter les jeunes générations, hein, comme on dit, nouvelle génération, jeune génération. Quel est comment eux s'y retrouvaient avec, alors certains diront ce cinéma, pour d'autres ce que c'est devenu le cinéma. Alors après, on en parlera peut-être à la fin de l'émission. Donc de voir que, tu sais ce que l'on dit quelquefois, l'histoire des vieux livres. Alors pour les gens, il n'y a pas de vieux livres, mais pour eux, il y a des vieux films. Alors voilà. Évidemment, il n'y a pas de vieux films.
Ça c'est déjà contre ça. cette appellation.
La première chose.
On a dit aussi. Oui. J'ai entendu parler d'un cinéma poussiéreux aussi.
Ah oui. Un cinéma poussiéreux.
Voilà.
Alors.
Et des gens bien placés, hein, qu'on dit ça. Hein.
Ah ouais.
Ah oui. Je ne veux pas dire qui, je ne veux pas faire de délation.
Exactement. Alors c'est pour ça, cette émission, pour des auditeurs qui se trouveraient à l'écoute de cette émission et qui ne connaîtraient pas ou pas très bien les films de Marcel Carnet, c'est comment redonner ou donner le goût, parce que ça c'est une chose justement dont on a parlé au début de l'entretien, c'est que toi tu as pu découvrir Les Visiteurs du Soir par un film diffusé à la télévision.
Bah oui.
Et à une époque où la télévision
les diffusait.
Et que c'est une époque où la télévision ne les diffuse plus.
Bah oui, je pense qu'on est beaucoup comme ça à avoir découvert le cinéma, même dans sa globalité, par la télévision. Parce que quand on est jeune, quand on est adolescent, bah c'est évidemment à la télévision qu'on garde les films en priorité. Surtout les vieux films. Donc effectivement, ces films en noir et blanc
anciens
français.
Non, pas de vieux films.
Pardon. Merci de m'avoir repris.
Pas de vieux films. Voilà.
Ces films en noir et blanc français sont devenus assez rares. Ou alors faut aller sur le câble. C'est vraiment dans des niches. Ouais. Mais moi, je suis vraiment partisan du fait. Là, par exemple, ce qui est très bien, c'est que là dernièrement, Arte a diffusé des films de Duvivier le lundi à 20h30. Ont d'ailleurs fait un beau succès d'audience, et moi je suis vraiment pour ça. Je pense que c'est une chaîne comme Arte devrait diffuser régulièrement des films français en noir et blanc, parce que si ces films-là ne sont plus vus, parce que aller les voir en salle, on peut quand c'est possible, quand il y a les restaurations, oui. Ça demande une démarche du spectateur de, oui. d'aller en salle. Mmh. Alors qu'à la télévision, bon bah voilà, s'il est là ce soir-là, ou il peut l'enregistrer, il peut découvrir comme ça plus facilement, je pense.
Oui, alors ça films. c'est pour la découverte. Et puis après, on pourrait dire aussi l'importance évidemment de l'écran. Mmh. Quand toi tu t'en es occupé aussi pour des films comme Les Enfants du Paradis, un cinéma comme le Ranelagh, enfin on parle de Paris,
oui, j'avais fait ça,
où ça a été projeté, comme on dit, sur grand écran.
Par contre, oui, voilà. C'est vrai, c'est que bon, on peut découvrir les films à la télévision, mais ça, tout le monde, tous les spécialistes le disent. Hein, c'est vrai que quand on voit un film en salle, évidemment, ça n'a aucun rapport.
Non.
Là, justement, quand j'étais à Lyon, j'ai présenté 5 films de Carnet sur le week-end du 15, et du coup, j'ai revu des bribes de films à chaque fois, des films que j'avais vus certains qu'en DVD, parce que La Marie du Port, dont je parlais tout à l'heure, c'est un film qui est assez rare en salle, donc là j'en ai profité, j'en ai vu une grosse partie, et le voir en salle, c'est vraiment complètement différent. On redécouvre le film.
En fait. Et voir en salle aussi avec des spectateurs. Oui. Et et là, il se passe quelque chose. Enfin, il y a une émotion qui peut être partagée. Il y a un ressenti qui peut être partagé. Pour le lire, pour ce que disait Godard, on en reparlera de temps en temps. Il n'a pas dit que des blagues. Non, mais il disait pour la télévision, on baisse les yeux, et puis pour le cinéma, on relève la tête. Hein. Alors, je pense, entre autres, enfin, ce que ça voulait dire, c'est pas simplement un positionnement de la tête, mais pour dire l'importance et qui disparaît un petit peu au profit de multiplex, de salles énormes où c'est des consommations, c'est comme presque publicitaire du pop-corn avec des films. Industriel.
Il y a beaucoup de films qui sont faits comme ça. Maintenant, des films qui sont faits, les producteurs et les distributeurs savent très bien que tel film, il va peut-être faire, même si c'est un gros film avec des gros moyens, même s'il se plante, c'est pas très grave parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le diffuser quand même sur toutes les chaînes de la planète spécialisée et que c'est pas ils rentreront quand même dans leur fond d'une manière ou d'une autre. Et que,
Alors c'est pour ça que je te parle de ça. Pour dire, est-ce que là encore on voit par rapport à des arts ou au 7e art que le cinéma d'une certaine époque a disparu et que justement quand on parle un peu de patrimoine dans le bon sens du terme, on veut dire qu'il y a eu des œuvres, il y a eu des choses de réaliser et qui sont uniques et que il faut essayer d'en faire connaissance, de les découvrir pour ceux qui ne l'ont pas fait encore.
Ma motivation, c'est-à-dire que le 7e art, c'est un art particulier au sens où comme tu disais tout à l'heure, on dit pas de vieux livre, on va pas dire de Zola que c'est un vieux livre.
Voilà.
Tu vois, et je trouve que...
Ou un vieux tableau.
un vieux tableau, on va
ça
pas dire.
Encore,
voilà,
mais autrement. Autrement.
C'est un vieux tableau, c'est...
Oui, autrement.
Et donc, du coup, pour les films, des fois, on va dire, voilà, un film des années 30, tu vois, on va dire ça, alors que si c'est, je sais pas, par exemple, le premier qui me vient en tête, La tête d'un homme, qui est un film de Duvivier, un polar, que je trouve vraiment magnifique. Les images sont incroyables.
Avec le noir et blanc.
Ah oui.
Alors là aussi, essayez de dire, enfin, on va l'aborder avec Marcel Carnet. Et puis c'est à propos des textes que tu as collectés, que dans cette édition, sur ce thème, de voir que c'est quelque chose de très particulier. Et que justement, c'est quelque chose qui est toujours presque entre guillemets éternel, et qu'il faut essayer de donner le goût d'aller découvrir, et que ça n'a rien à voir, comme on dit encore une fois, c'est moderne, comme je dis quelquefois.
Moi, c'est des films qui me touchent, donc j'espère que d'autres seront touchés aussi. Après, voilà, c'est vrai que ça peut demander des fois un effort à quelqu'un qui est qu'à 20 ans, qu'à jamais vu de film en noir et blanc, ça va lui faire bizarre.
Voilà. Donc,
il y a peut-être une approche à faire, alors, mais
la même chose.
L'éducation nationale aussi.
Oui, la même chose que pour Doineau. On en parlait dernièrement puisque anniversaire de Doineau, je conseille justement, je ne sais pas si tu l'as vu, aux auditeurs, un film qui est passé
dimanche,
encore une fois sur Arte, c'est sa petite fille, qui est Déroudi, qui a réalisé ce film. Je ne sais pas si tu l'as vu, merveilleux.
Pas encore, mais je l'ai enregistré.
merveilleux à voir. Alors là aussi, par rapport à Douaneau, bah, la photographie, encore une fois, ce que c'était. Et donc, l'accès, c'est autre chose que quand il y a la couleur ou le relief, de voir l'importance que ça peut avoir et toujours développer une qualité particulière chez tout le monde, la curiosité. Soyez curieux. Alors, on nous dit tous, ne faut pas être, il est curieux, ce petit garçon, il faut pas. La curiosité, et allez, j'espère après, il n'y a pas que dans cette émission, mais en tout cas, de penser que les gens, on leur donnera, ou aux éditeurs, le goût de les revoir, à chaque fois, c'est une émotion extraordinaire, les films de Marcel Carnet. Alors, si tu veux, Philippe, ce qu'on pourrait faire, parler de l'ouvrage. Oui. Alors pourquoi cet ouvrage, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de collecter les articles, ne pas oublier que Marcel Carnet était critique de cinéma, l'importance d'un critique de cinéma, et qu'avant d'avoir réalisé tous ses films, il a écrit copieusement, comme on pourrait faire la relation avec la nouvelle vague, avant, voilà.
C'est ce que je voulais montrer, en fait. C'est quand, en fait, Carnet, on imagine, c'est, donc, les gens le savent peut-être pas, mais il a commencé ça à filmer en 1936. Mais avant, en fait, il a été assistant de deux réalisateurs célèbres de l'époque qui s'appellent Jacques Feder et René Clair. Mais en parallèle, il a été pendant, donc, 5 ans, critique dans différents journaux.
Donc tu peux citer alors justement les journaux,
parce que
c'est intéressant. Bah,
surtout, il a été d'abord, ça s'est fait de manière très un peu simple pour lui, c'est-à-dire qu'il a remporté un concours d'une revue de l'époque qui s'appelle Ciné Magazine et qui offrait qui embauchait un critique sur la base de, il fallait écrire quatre ou cinq critiques de films. Et c'était les lecteurs qui votaient pour la meilleure, en fait. Et Carnet l'a remporté. Mmh. Et du coup, il a été embauché dans cette revue. Et il va y rester 5 ans.
Ah oui.
Mais en parallèle, il va aussi écrire ailleurs. Pour d'autres revues. Je vais citer vite fait, il y a Pour Vous, il y a des revues corporatives aussi. Il y a Hebdo Film, le Film Sonore, ça c'est une revue très rare. Aussi, il a fait un article dans une célèbre revue de l'époque, une magnifique revue visuellement qui s'appelle Vue, une revue assez généraliste, mais avec un grand souci de qualité photographique notamment.
Et pour l'époque, l'importance de la diffusion de ces revues et de ces journaux.
Aussi, c'était quand même certaines étaient destinées à quelques milliers d'exemplaires quand même à des spécialistes comme Hebdo Film, mais d'autres étaient beaucoup plus généralistes. Il y a quelques articles dans Cinémonde par exemple, ça c'est vraiment une grande revue
qui est venue
populaire
après,
de l'époque.
Qui était. Et là au début de Cinémonde, il y avait surtout des photos de films où il y avait des textes aussi. Qu'après les photos ont pris toute la place pour
l'évolution. Le Cinémonde, c'est intéressant parce que comme Pour Vous aussi, c'est que c'est des revues qui au début étaient pour vous en fait, mais ils avaient une grande qualité de l'écriture et de la photographie, c'est-à-dire qu'ils choisissaient toujours parce que moi je collectionne ces revues et c'est vraiment un bonheur à chaque fois de tomber dessus parce qu'il y a vraiment une grande donc les articles sont bien écrits, même si c'est à destination d'un public populaire. Également un souci visuel, donc il y a une belle maquette, il y a une belle photographie de film, donc ça donne envie d'aller les voir. Et c'est pas seulement écrit parce que après le Cinémonde va dévier, par exemple, et Cinémonde petit à petit va dévier vers une écriture un peu plus simpliste et un peu plus comme un peu on va le voir par la suite, mais sur un peu axé sur les stars, avec des articles un peu
publicitaires. Alors aussi, pour
ce n'est pas le cas de Carnet.
Non, exactement. Alors nombreux, on peut dire donc 29, 34, 5 ans, ciné-reporter. Donc le nombre d'articles, il y en a.
Oui, plusieurs. Mais en fait, justement, quand j'ai, en fait, moi, je connaissais certains de ces articles, comme je disais tout à l'heure, je les collectionne, et je trouvais que c'était vraiment des bons articles que personne n'avait, la plupart n'avaient pas été relus depuis cette époque. C'est donc, je trouvais que c'était des articles qui avaient vraiment des articles de fond sur le cinéma. Qu'est-ce qu'était le cinéma à la fin du muet, au début du parlant
Alors c'est ça. Alors justement,
c'est ça qui est intéressant.
On parlait alors. Après, on va l'évoquer. On appelle ça les talkies, parce que se rendre compte, je l'ai dit tout à l'heure, la définition de, pour les mots croisés de Tristan Bernard, muet à sa naissance. Et donc, c'était cinéma. Hein. Alors, justement, pour les talkies, le passage du
muet au parlant.
Et pour Carnet, sa réflexion par rapport à ça.
Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que lui, Carnet, donc quand il a commencé à écrire, il est jeune, hein, il a 23 ans. Et en fait, il a donc lui évidemment, avant, il a découvert le cinéma par le muet, mais tout de suite l'intérêt de ses écrits, c'est que tout de suite il comprend ce que peut apporter le parlant. Et en fait, lui il va tout de suite donc dans les articles que j'ai retrouvé, il va tout de suite défendre le parlant, mais il va surtout le défendre aussi contre parce qu'à l'époque le cinéma, les producteurs français, ils étaient tentés de faire des faux films,
c'est ça.
Parlant en fait, ils mettaient de la musique par dessus avec quelques dialogues un peu mal faits, et ça faisait un film parlant, mais et on disait les talkies, et ça va prendre quelques années avant qu'en France on maîtrise bien ce nouveau format en fait.
Et alors là, il y avait aussi l'histoire des salles, non, et l'équipement.
Ah oui,
aussi.
Oui,
un peu.
Il y a des articles qui sont bien, que j'ai regroupés, où il parle des salles de cinéma, et notamment il y en a un qui est, que je trouve vraiment super bien, où il parle des salles de quartier dans Paris, parce que donc Carnet, il allait évidemment, comme il était journaliste, il allait voir les films dans des projections de presse, mais également c'était un passionné de cinéma, donc il parcourait Paris pour aller voir tel film à Belleville ou à Ménilmontant, pas loin d'ici. Et il parle très bien de salles de quartier, par exemple la projection du samedi soir qui est très familiale, et il retranscrit une ambiance qui évidemment qui n'existe plus, mais c'est très ça. Très populaire, très et il raconte ça avec pas mal de détails, c'est assez drôle
de retrouver alors là aussi, alors j'avais vu donc il y a plusieurs c'est plusieurs articles rubriques que tu as classé.
Oui.
J'ai trouvé aussi, alors on parlait au début évidemment, comme c'est du cinéma, il a fait un article, la caméra, personnage du drame. Et donc, importance pour l'apparition du travelling.
Il y a deux articles très connus de Carnet qui sont restés avec le temps. Il y a celui-ci et puis un autre qui est quand le cinéma descendra-t-il dans la rue.
Oui.
Mais la caméra personnage du drame, c'est un article très intéressant parce que lui, ce qu'il veut démontrer, c'est que la caméra, mais en même temps, c'est une évidence de nos jours, mais à l'époque, ça apparaissait moins, c'est que l'importance de la caméra, et il cite notamment des films de Murnau et surtout la manière dont Murnau utilise le travelling dans Le Dernier des Hommes, un film de 1924 je crois, avec Emil Jannings, qui est un des plus grands films muets allemands.
Ouais.
Et il en parle très très bien de ça, de montrer que l'importance de la caméra, qui est pas juste là pour enregistrer une scène qui est en train de se dérouler devant, mais également qu'elle est partie prenante de l'histoire. Par la manière dont le réalisateur l'utilise, par rapport au cadre qu'il choisit, et que ça a une importance vitale. C'est une évidence de nos jours. Là, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais à l'époque, ça l'était pas.
Oui. Et alors, dedans, on peut trouver alors des photos, justement la caméra personnage du drame, paru dans le magazine à l'époque Vue. Hein, c'était le 5 août 1931. Et on voit, pour certains travelling, c'est carrément presque une grue, une installation.
Ah oui, c'est...
Là, à l'époque aussi.
C'est rudimentaire.
Ah ouais, ouais, les installations.
Mais pourtant, ils faisaient avec des moyens. Le cinéma avait déjà atteint quand même un espèce d'âge d'or quand même. Le muet s'arrête au moment où il atteint son âge d'or. Donc déjà, au niveau de la caméra, au fur et à mesure des années 20, le cinéma va faire d'énormes progrès, justement, par rapport au travelling. Et donc ils avec des on retrouve dans ces revues là des photos justement comme celle dont tu parles.
Ça
on se rend compte que c'était tout un que je sais pas, ça paraissait vraiment On se demande même comment ils arrivaient à faire certains, à tourner certains plans.
Exactement. Donc l'importance. Alors les articles, les rubriques, et alors revenir aussi sur pour l'histoire du parlant. Là aussi, l'expression les talkies, les donc oui. C'est l'expression anglaise, non, qui a été.
Oui, voilà. Ouais. Oui, c'était au tout début. Ça a duré jusque les premières années.
Oui, oui. Et alors là aussi de voir que. Par rapport à l'évolution, donc l'ensemble, il traite. J'ai vu un sujet aussi pour le film policier.
Alors il est beaucoup.
Pour lui. Alors évidemment, c'est pas ce que l'on voit maintenant. Il semble.
Non. Il a consacré plusieurs articles au film policier, surtout américain, parce qu'il aimait beaucoup les films. Bon, il y a deux films de Von Stenberg, à l'époque américaine, avant qu'il fasse L'Ange Bleu. Il a fait deux films muets que Carnet vénère, qui sont The Dogs of New York et Underworld. Alors en français, c'est Les Damnés de l'Océan et le deuxième, je m'en souviens plus, et qui sont deux films qu'il adore et puis il a découvert Carnet par les céréales, comme beaucoup les céréales dans les années 10. C'était lui, il parle surtout d'un céréale qui l'a beaucoup influencé. On connaît les vampires ou fantomas, mais de Feuillade, mais lui il a été plus influencé par Les Mystères de New York, un céréale des années 10 qui est maintenant assez oublié, mais qui était avec une actrice qui s'appelait Pearl White, et il va en parler régulièrement de ce serial en fait.
Alors justement, je voulais souligner ça, puisque tu sais nous l'affection que l'on porte particulièrement à la police, hein, et surtout en ce moment, hein, avec ce qui peut se passer, vous rendez compte. Et voilà ce que Marcel Carnet pouvait écrire aux petits bourgeois. Tranquille, à qui ne suffisent plus un fauteuil confortable, une bonne pipe et des chaussons molletonnés, bureaucrate d'une morne ville de province, à la jeunesse moderne, avide de monde inconnu, le film policier apporte un peu de rêve et de poésie. Alors de rêve et de poésie,
c'est incroyable,
hein, tu vois, de dire ça. C'est pour ça quand même je voulais signaler ce que ça pouvait être, comment là on pouvait être d'accord avec les séries actuelles, ce que ça peut être devenu pitoyable, en fait, de voir partout, et que le rêve et la poésie, bonjour,
mais c'est un peu perdu en route,
est disparu. Alors sur ça, je pense qu'on pourrait peut-être passer un extrait. Alors, je rappelle Philippe Morisson, hein, au sujet de ton bouquin, et puis des extraits que tu as apportés. Donc, on pourrait passer.
Voilà, oui, alors, un extrait d'une interview qui est sur mon site, mais où il va parler de son premier court-métrage qui date de 1929.
Oui.
Donc, qui s'appelle Nos gens à Eldorado du dimanche. Et c'est un extrait. Donc, c'est un court-métrage qu'il a tourné lui-même avec une petite caméra qu'il avait achetée, aidé par un ami. Et donc, sur les bords de Marne à l'époque. Et c'est du coup, de nos jours, maintenant, c'est un magnifique document sur un dimanche populaire.
Voilà,
parce qu'à l'époque, les gens qui habitaient Paris, les Parisiens, le dimanche, ils quittaient Paris pour aller s'aérer un peu du hors-travail de toute la semaine, sur les bords de Marne, aller nager.
Exactement, on reparlera après peut-être d'autres films, hein, qui ont été comme La Belle Équipe, aussi. Alors, on passe l'extrait.
Oui, voilà.
Donc, voilà, pour les auditeurs. On passe tout de suite l'extrait.
Mais vous savez, à propos de nos gens,
ouais.
C'est dans le livre. J'ai cherché, quand j'ai acheté cette. Vous savez pourquoi j'ai fait ce film? C'est parce que je voulais. J'étais critique. Et j'étais fatigué un jour, j'étais exaspéré de gagner ma vie du travail des autres. J'ai dit, je veux tout de même voir si je suis capable de faire quelque chose. Il n'y avait pas d'autre solution que d'acheter un appareil. J'ai acheté un petit appareil, c'était pas très cher, j'ai pas de véhicule. Le tout m'a coûté 9000 francs. Appareil, pellicule et téléphone. Oui, à l'époque. Oui, c'est pas énorme. Hein. Bon. Et j'ai pensé, j'avais connu ça plus jeune, quand j'étais presque un adolescent, et c'était vraiment un spectacle très, très curieux et très beau. Vraiment, ces centaines de milliers de gens qui quittaient Paris le dimanche, qui s'en allaient dans les banlieues, dansaient dans les guinguettes au bord de l'eau, faire de la nage, faire de l'aviron, enfin toutes sortes de choses, de sport, nautique et tout. Et j'ai pensé à faire ça. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai réalisé que finalement j'avais subi l'influence des expressionnistes. Mm-hmm. De Monet, de Renoir, de Sisley, tous ces gens-là.
Les impressionnistes, vous voulez.
Les impressionnistes. Ah, j'ai dit expressionnistes.
Oui.
Pardon, les impressionnistes.
Parce que tout au début du film, on dirait expressionnisme quand le train est dans le tunnel où il a ses lumières et
les lois.
Mais ça devient.
Mais non, mais ouais. C'est après.
Oui.
Et finalement, c'est évidemment. Les guinguettes de Nogent, c'est un peu l'équivalent de la grenouillère, par exemple, de l'homme passant.
Mm-hmm.
Vous comprenez? Mm-hmm. Laquelle grenouillère a été peinte par plusieurs impressionnistes, dont je crois Monet au premier lieu. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte de ça.
Mais la structure du film lui-même, c'est une variante sur la symphonie de ville de
Ruttmann.
De Ruttmann, n'est-ce pas? C'est l'inverse, si vous voulez, où on quitte la ville, on montre les gens durant la journée.
Ça, je n'ai pas du tout été influencé.
Vous n'y avez pas pensé, non?
Si j'avais été un peu influencé, ça aurait été par rien que les heures de Cavalcanti.
Ah.
Je l'ai donc fait pour moi, pour me rendre compte si j'étais capable de faire quelque chose. Ouais. Je l'ai fait à De A jusqu'à Z, puisque j'ai imaginé l'histoire.
Ouais.
J'ai pris moi-même les photographies, tenais moi-même l'appareil. J'ai fait moi-même le montage.
Auteur complet.
Auteur complet.
Voilà, vous avez écouté alors Philippe, justement, resituer. Les conditions de cet entretien avec
parce
Marcel Carnet.
Vous qui nous écoutez, vous pouvez vous demander mais pourquoi on entend ces bruits de couvert, c'est quand même pour une interview, ça fait pas très sérieux. Parce qu'en fait, il faut savoir que la personne qu'on entend là, qui parle avec Carnet, s'appelle Edward Turk. Et Edward Turk, c'était le premier, on va dire, biographe qui était en plus américain. Le premier à s'être intéressé à Carnet. Et l'interview date de 1980. Et il s'en est servi pour son livre qui est sorti d'abord aux États-Unis et qui a été édité chez l'Armada dans les années 2000, son livre sur Carnet. Et en fait, donc, ça a été enregistré. C'est la première fois qu'il rencontrait Carnet, et c'était lors d'un déjeuner ou un dîner à Paris. Et donc, il avait mis le micro sur la table, apparemment. Et donc, c'est une conversation très intéressante, parce que du coup, Carnet, il parle de manière plus ouverte sur sa carrière. Et moins c'est moins guindé que s'il était en interview à la télévision. Donc c'est une grosse partie de l'interview est donc disponible sur mon site. Et là c'est intéressant parce qu'il parle de ce premier court métrage dont je parlais avec nos gens. Et c'est intéressant. En plus c'est intéressant parce qu'il fait le lapsus sur il voulait rendre hommage aux expressionnistes et alors qu'il voulait dire impressionniste et alors que lui il a beaucoup été influencé par le cinéma expressionniste allemand.
Oui.
Donc c'était intéressant qu'il fasse ce lapsus, je crois.
Oui. Alors, là, en revenir, mais on est toujours dedans pour l'ouvrage de tous ces textes de Marcel Carnet. Celui-là est publié dans Cinémonde, on en parlait tout à l'heure, numéro 151, on va être précis, du 10 septembre 1931. Et là, pourquoi? Parce que Françoise Roset nous parle des laborieuses vacances de Feder. Alors, comme tu l'as dit au début, on en a parlé, assistant de Jacques Feder, et rappelé évidemment la magnifique interprète et bien d'au-delà, compagne de ce qu'était Françoise Roset.
Sans Françoise Roset, je pense que Marcel Carnet aurait mis plus de temps à arriver dans le métier, parce que pour situer, c'est que à l'époque, le cinéma français, évidemment, c'était peut-être un peu, on peut penser que c'était assez simple d'y rentrer, mais en même temps, quand on n'était pas du métier, c'était très difficile, et surtout, on donnait rarement la chance à des jeunes de débarquer, démarrer dans le cinéma. Et Françoise Roset, en fait, c'était une amie commune à lui, et lui était passionné par les films de Jacques Feder. Faut rappeler aux auditeurs que Jacques Feder a fait des très beaux films muets dans les années 20. Moi, je les considère même meilleurs que les parlants. Et donc il a eu cette chance de rencontrer Roset. Et qui a trouvé que ce jeune homme avait l'air passionné et donc lui a dit bah rencontrez mon mari donc Jacques Feder et puis peut-être que vous arriverez à faire quelque chose avec lui. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, ça c'est voilà, Feder l'a engagé en tant que troisième assistant d'abord, et puis il a vu que Carnet était a fait ses preuves, et du coup après il l'a réembauché mais à des niveaux mieux, et à la fin il a terminé, il était directeur de production sur la Kermesse Heroic,
oui.
Un film dans lequel on retrouve Roset. Et Roset, il faut savoir que s'il a fait son premier film Carnet qui s'appelle Génie, avec en adaptation et dialogue, c'est Jacques Prévert. Ça c'est en 36. C'est grâce à Roset qui a accepté au début, le producteur a accepté de pas être payé pour lancer le projet de ce film. Et donc comme ça le film a pu se faire grâce à Roset, et Roset donc qui joue dans Génie et qui joue aussi dans Drôle de drame où elle est assez exceptionnelle.
Alors juste je lis quelques lignes de cet article écrit par Marcel Carnet. Lorsque Françoise Roset parle de son mari, elle dit Jacques. Lorsqu'elle parle du metteur en scène, elle dit Feder. Il y a un monde. Le cinéma m'amuse et m'enchante, dit-elle. Comment pourrait-il en être autrement? Surtout lorsque je tourne avec Feder. Hein, c'est alors moi je veux, là aussi je peux voir Françoise Roset évidemment dans L'Auberge Rouge.
Ah oui.
Alors à chaque fois là, une petite merveille.
C'est bien de le rappeler.
Une petite merveille.
Elle a un super rôle dans ce film de Autant.
Là, la confession dans L'Auberge Rouge, donc c'est elle, la tenancière, avec Fernandel, au travers d'un gris châtaigne. La confession, c'est quelque chose là aussi.
Non, c'était une grande actrice de cette époque.
Et puis alors juste évoquer quand même, tu dis Les Visiteurs du Soir, si c'est pas le film, mais pour on peut voir ça. Alors je vous le rappelle, si vous allez sur le blog de Chronique Hebdo, en même temps, parce que ça a été piqué sur ton blog, l'entretien avec Marcel Carnet, où il parle justement des Visiteurs du Soir, et il avait eu l'idée de, puisque c'était pendant l'occupation, il fallait pouvoir parler de certaines choses, il le dit, mais comme c'était, il y avait la censure, il fallait citer ça dans une autre époque.
Oui.
Et il choisit le Moyen-Âge.
Voilà. Oui, parce que lui et Prévert étaient fascinés par, de toute façon, par cette époque du Moyen-Âge.
C'est ça qui est marrant.
C'était une bonne occasion pour eux.
Oui, alors quand l'on sait, enfin, moi, je revoyais une autre chose, évidemment, pour aller un petit peu vite, quand on parle de cette époque où extrêmement plombé, l'ensemble du Moyen-Âge, alors le haut et le bas, on parle de totalitarisme du christianisme. Parce que la religion est une prégnance dingue. Mais ça, c'est un élément. Mais justement, comment subvertir et qu'il y a peut-être des éléments dans le film. Et en particulier, il décrit le choix d'un château blanc.
Oui.
Et pourquoi? Justement.
Ça, c'était ça lui a été beaucoup reproché de faire un château blanc. Et il lui disait, c'est tout simple. À l'époque, les châteaux, ils étaient neufs, donc ils étaient forcément blancs. Pour lui, c'était normal. Alors bon, après, il y a différentes. On lui a pas mal reproché parce qu'il est peut-être un peu trop blanc, mais bon, en même temps, il pouvait évidemment pas tourner dans une ruine de château fort. Donc il lui fallait un vrai château. Du coup, il fallait le construire, ce château.
Oui.
Donc ça a été fait, les maquettes ont été faites par Alexandre Tronner.
Puisque tu parles juste ça, on va revenir dessus. Je voulais citer, ce que tu as écrit, et en particulier un ouvrage dont j'ai parlé sur cette antenne, mais le rappeler, tu es co-auteur avec Jean-Pierre Genet et N.T. Bean. C'est ça, du livre Carnet, Prévert, Tronner, Les magiciens du cinéma aux éditions Les Arènes. Extraordinaire aussi. Alors
c'est un livre là sur la carrière donc ça c'est en fait la entre 36 et 46 on va dire on va aller même jusqu'en 49. C'est la période de Carnet, de sa collaboration avec Prévert en fait. Donc là il y a beaucoup de photos, certaines assez rares, de documents, c'est un livre où
cet ouvrage je le recommande aux éditeurs si on peut encore le trouver, je pense, c'est peut-être
le trouver.
Ah oui. formidable. Et puis les facsimilés.
Oui, voilà.
Ah, en fait, formidable.
Parce que faut savoir
ça,
que
aussi.
Donc je disais tout à l'heure, moi je collectionne.
Ouais.
Mais que Jean-Pierre Jeunet dont tu parlais est aussi collectionneur et passionné de carnets. Mmh. Et donc on avait décidé, on voulait absolument faire des facsimilés de documents rares qu'on avait. Mmh. Parce qu'on, je sais pas, on est un peu fétichiste de l'objet et faire une reproduction comme ça de ces documents, comme le dossier de presse de Kelly Brume qui est
ça,
super rare.
Ça aussi.
Moi j'ai pas, je suis un peu jaloux. D'ailleurs, mais voilà, c'était, ça fait un petit bonus au livre.
Quoi. Oui. Alors là, vous voulez dire revenir, hein, puisqu'on parle du château, et aussi l'anecdote, enfin, dont parle Marcel Carnet à propos du banquet. Ou la nourriture, il parle de la nourriture et de la miche de pain.
Hein, alors, ah oui, c'est toujours une anecdote.
Les fruits et légumes, les fruits surtout, et la miche de pain.
J'allais dire une anecdote savoureuse, mais ça serait pas de bon goût. Mais par rapport à ceux qui étaient sur place et qui avaient un peu faim.
Mais c'est le cas, rappelez.
Sous l'occupation, donc évidemment, c'était très difficile. Et en fait, sur ce banquet, il fallait que le banquet ait l'air vraiment d'un banquet somptueux, avec beaucoup de victuailles, de nourriture et tout ça, mais sauf que les figurants qui étaient sur le banquet, ils avaient faim. Et donc, les grandes miches de pain, en fait, Carnet s'était rendu compte que si on les retournait, en fait, les figurants, ils avaient creusé tout l'intérieur.
Ils avaient creusé
toute la miche de pain.
Ils avaient trouvé la miche de pain très légère.
Voilà.
Il dit à un moment qu'il déplace la miche de pain et il se dit pourquoi, puis il s'aperçoit.
Et puis aussi, comme les
fruits.
Entre les prises où les figurants mangeaient les fruits.
Il avait mis du phénol, il raconte ça, qu'il avait mis du phénol pour pas que les bouffer. Qu'on puisse les retrouver.
C'est difficile comme pour eux évidemment de pas résister à cette envie. On imagine, c'était vraiment, le film a été fait dans des conditions comme Les Enfants du Paradis, dans des conditions assez dures. À beaucoup de niveaux en plus. Donc,
alors justement, on va évoquer Les Enfants aussi du Paradis. Alors si on doit faire des classements, parce que j'ai vu ça aussi participer à la, pour une nouvelle version, édition Blu-ray DVD des Enfants du Paradis, auquel tu as apporté des connaissances que tu avais pour la qualité en particulier, la condition Blu-ray de revoir la copie, c'est assez formidable.
Oui, il y a encore quelques défauts qui subsistent, mais c'est quand même par rapport à celle qu'on connaissait avant, et
c'est
quand même une bien meilleure qualité.
Alors évidemment, si vous ne l'avez pas vu, pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, la chance ou leur chance ou le malheur... revoir, il y a absolument tout. C'est une œuvre pour moi, je donne mon appréciation. Je ne sais pas pour toi. Alors après, on peut voir des trucs, mais sur tous les plans, puisque là aussi, on parlait tout à l'heure du passage du muet au parlant. C'est évoqué avec l'histoire de Barou, la pantomime
dans Les Enfants du Paradis. Qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont trouvé un moyen, et Carnet le dit dans diverses interviews, c'est que, évidemment, eux, dans le film, ils évoquent la pantomime, mais l'idée aussi, c'était aussi d'évoquer le passage du muet au parlant, parce qu'ils ils étaient prévers, comme Carnet, comme Barreau, été vraiment passionnés, marqués par, et influencés par Charlie Chaplin.
Oui.
Et il voulait aussi rendre un peu cet hommage, mais évidemment de manière un peu détournée par la pantomime. Mais voilà. Et ce qui est intéressant,
avec la fameuse séquence où il est pour Arletty qui n'aurait pas volé.
C'est magique.
C'est
Barreau, et c'était en plus quelqu'un qui avait appris le mime. Donc et ça se voit. Les différentes séquences dans lesquelles il est où il joue la pantomime, il est magnifique dans le rôle, hein. Tout le monde le dit, hein. C'est vraiment magnifique. Et c'est ce qui est intéressant je reviens sur le livre, parce que j'ai trouvé quelques articles qui sont juste un peu, que j'ai mis en clin d'œil, mais où Carnet parle de la pantomime. C'est un échange un échange entre un autre journaliste où ils s'échangent sur deux, trois articles. Ils se répondent comme ça par rapport à la pantomime. Donc j'en dis pas plus, je laisse comme ça les
auditeurs
le découvrir, mais c'est intéressant.
Et puis pour l'ouvrage aussi, il y a beaucoup de photos. On voit justement.
On n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait parce que ça coûte cher.
Mais celles qui sont, j'ai trouvé ça formidable. Alors il y en a une. Alors là, pour la famille, on voit le petit Marcel. avec la famille là qui est aussi bah il y a Jacques Feder, hein, on le voit dedans, Françoise Rosay là aussi de découvrir donc le tournage de ce court-métrage L'Eldorado du dimanche, hein, c'était 1929. Alors ça, vous découvrirez, enfin je vous conseille, hein, par rapport à cet ouvrage, et pour revenir pour les films, donc les cités, la liste des films de Marcel Carnet, en revenant, puisque Les Enfants du Paradis, il y a une séquence extraordinaire, moi je trouve, c'est celle que celle que je préfère, avec Marcel Herrand, et dans le rôle de Lassner, quand il regarde le boulevard du crime et il dit regardez-les, comment ils sont. Alors on a l'impression quand on voit ça, que selon les époques, ça n'a pas changé. Mais, donc on peut voir au travers de Lassner sa grande lucidité, hein, puisque il rappelle l'histoire de son père qui lui dit rentrez en vous-même. Alors il dit les malheureux, ils m'ont laissé seul avec moi-même. Ouais. C'est ce qu'il pouvait y arriver de pire. Alors Prévert,
Prévert. Vraiment exceptionnel.
C'est pour ça. Alors les magiciens
là Lassner, il lui a mis des paroles. J'adore cette scène, hein, vraiment.
Ça, alors là, et c'est pour ça je parlais de cet ouvrage, hein, les magiciens du cinéma, parce qu'il y a vraiment là lui, Carnet, Prévert, et puis Tronner, hein.
Bah oui, parce que
là
aussi c'est les décorateurs de tous ces films,
c'est ça.
De cette époque.
Oui, donc là, l'importance de cet ouvrage. Alors, si tu veux passer un autre extrait.
Oui, extrait de Carnet.
Oui.
C'est un extrait qui est assez rare, donc pareil, qui se trouve sur mon site.
Oui.
Mais en fait, c'était une édition. À l'époque, avant le DVD, il y avait le Laserdisc, et c'était une édition américaine du label Criterion. Des Enfants du Paradis, en fait. Donc il y avait une interview audio de Carnet avec un Américain qui s'appelle Brian Stonehill. Et moi j'ai réussi, ça faisait longtemps que je voulais le faire, et j'ai réussi il y a quelques années à avoir l'autorisation de reproduire cette interview.
Oui, alors donc, c'est une petite perle rare là.
Parce qu'on la trouve que sur ce Laserdisc, qui n'est pas remise dans les éditions suivantes en DVD Blu-ray.
Ouais.
Et du coup, ça me semblait intéressant. Et là, ce qu'il va dire, il va parler de un peu qu'est-ce que Brian Stonehill lui demande un peu qu'est-ce qui lui fait le plus plaisir par rapport à sa carrière et par rapport au public. Enfin, je vous laisse entendre.
Voilà, on l'écoute.
Finalement. Quelle dédicace espérez-vous attacher à votre film en le fixant sur vidéodisque destiné aux spectateurs du monde? Une dédicace pour l'envoyer, si vous voulez.
La dédicace que je ferai, c'est que je vais dire la chose à laquelle je suis le plus sensible. C'est quand quelqu'un m'arrête dans la rue, me reconnaît, me dit « Vous êtes Marcel Touré ?» Et ils ne me disent pas, vous avez un grand talent, vous avez des films merveilleux, non. Mais ils me disent, tous, vous entendez, tous, c'est drôle, c'est curieux. Je vous remercie pour les joies que vous m'avez données. Alors j'espère que ce vidéo disque leur procurera une joie identique. Et c'est vrai, ça, je suis très sensible à ça. Parce qu'on est heureux d'avoir... c'est pas qu'on joue les grands humanistes, c'est pas que... Ça fait plaisir. Vous savez, comme je me souviendrai toujours, la première fois que j'entre pour voir les réactions des gens à l'Hôtel du Nord, ils étaient en train de rire. Toute la salle était en train de rire, atmosphère, ou je ne sais pas quoi. J'étais heureux. Ça fait plaisir, vous savez. Je suis heureux quand on me dit ça. Alors on l'a mis dans le film de Christian Jacques. Mais comme je pensais que c'était prétentieux de mettre ça. Alors j'ai dit, on va le faire d'une manière drôle. Alors, il m'a pris à un marché ambulant où j'achète des prunes, un kilo de prunes. Et je mange les prunes quand la femme m'a... Vous êtes bien marcée, c'est pas prétentieux, c'est genre de ça.
Quand vous...
On me dit souvent, mais c'est drôle comme vous êtes simple. Je dis, mais pourquoi je serais prétentieux? S'il est vrai que j'ai du talent, C'est pas un mérite. C'est la Providence qui me l'a donné. La bonne fée qui s'est penchée au moins. J'ai pu travailler, j'ai pu l'amplifier peut-être, ce talent, c'est possible. Mais je me reconnais simplement des efforts, un travail, une volonté de faire certaines choses que je n'ai pu faire qu'à force de volonté, d'opiniâtreté, mais c'est tout le mérite, je me reconnais.
Voilà, vous avez écouté donc cet extrait, la voix de Marcel Carnet, la joie, le bonheur, voilà, pour les gens qui le rencontrent et qui lui disent que vous m'avez apporté. Hein.
Oui, voilà, et que en fait, dans cet extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on se rend compte un peu que c'était quelqu'un d'assez sensible, en fait. C'est-à-dire qu'il a pas là, il est à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, et chez cet extrait qui est assez intéressant, on voit que pour lui, tu vois, une reconnaissance du public comme ça qui lui dit juste merci, ça le touche beaucoup plus que si on lui dit oh, vous êtes un super réalisateur ou je sais pas quoi. Reconnaissance du public des gens dans la rue était pour lui plus importante que des choses un peu guindées.
Oui, c'est ça.
Moi, ça évidemment, ça m'intéresse.
Oui, mais non, mais je crois que ça c'est important. Alors, ce que tu précises, j'avais mis quand dans la présentation dans le communiqué de presse de l'ouvrage, les écrits de Marcel Carnet, l'un des premiers cinéastes cinéphiles, témoignent ainsi d'un temps où le cinéma était une religion.
Oui.
Au fond, ce qui lui importait, c'était avant tout de distinguer ce qui est cinématographique de ce qui ne l'est pas. Et nous pensons qu'il y est bien parvenu.
Hein, voilà. Oui. Ouais. C'est quelque chose qu'il a écrit dans un article que j'ai repris en le mettant en le changeant de contexte, parce que je trouve que en fait, quand on lit ces articles, quand on les découvre dans le livre, on voit que en fait, même s'il était jeune, comme j'ai dit, il avait 23 ans quand il a commencé à écrire, il avait déjà une grande culture cinématographique et il avait déjà un recul sur ce qu'il voyait au cinéma, sur ce qui était ce qui valait, ce qui avait de la valeur, ce qui n'en avait ou ce qui en avait moins ou ce qui n'en avait pas, et il le met vraiment bien, il l'écrit bien surtout, et il a pas un discours élitiste là-dessus par rapport à certains autres qui ont écrit sur le cinéma à l'époque dans d'autres revues. Lui, il a un discours vraiment assez simple.
Oui, et préciser alors d'où vient Marcel Carnet, hein, pour les auditeurs, là encore, c'est pas la bourgeoisie. Voilà. Son père ébéniste.
Oui, pas très loin, du Faubourg Saint-Antoine.
Oui, du Faubourg Saint-Antoine. Alors, je vais pas raconter pour ce qui me concerne, l'arrière-grand-père ébéniste dans le Faubourg Saint-Antoine, oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai vu ça, j'ai dit, voilà. Alors, pour lui aussi, ce qui est plus intéressant, c'est autodidacte, je pense. Bah oui. Là aussi, se former...
C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a quitté l'école à 14 ans.
Alors, voyez ce qu'on l'on dit souvent, désertez l'école, faites l'école buissonnière, ne restez pas... On va vous formater, les malheureux. J'ai pas pu parler de ce sujet-là. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Donc, comment ça se passe l'histoire racontée aux petits enfants. Alors là, pour Marcel Carnet,
ce qui est intéressant, c'est qu'il quitte l'école à 14 ans. Après, il va faire des petits boulots comme ça, parce que lui, en fait, ça passe très vite. Donc, sa passion à ce moment-là, c'est le cinéma et aussi un peu le musical.
Ouais.
Et donc, il a besoin sa mère est morte. Il avait 5 ans.
Oui, c'est ça.
Il avait plein de belles-mères, qui se succédaient. Et donc, il était élevé par
sa grand-mère. Il a eu de la chance, de ne pas être formaté non plus par une famille traditionnelle.
En fait, il a plutôt été élevé par sa tante et sa grand-mère.
Oui. Alors, par les femmes.
Voilà.
Donc,
sa grand-mère était concierge. Je le raconte parce que j'ai pas mal de, fait une longue préface dans le livre où je parle un peu de sa vie avant qu'il soit critique. Et donc, j'ai interviewé un vieux cousin, lui, de l'époque, qui a connu les années 20, Carnet à cette époque-là, et la grand-mère, elle était concierge dans un immeuble du 17e arrondissement au Batignolles, et qu'elle était concierge de sa loge, d'après ce que me racontait ce cousin qui avait 99 ans quand je l'ai interviewé.
Ouais.
Il raconte, c'était vraiment un truc très, c'était vraiment dégueulasse. Il y avait vraiment une pièce un peu toute pourrie, les toilettes dans la cour. Et ça, c'était voilà le contexte dans lequel Carnet vivait. Ça, c'était la grand-mère qui avait la loge, et puis son père était à l'étage dans l'immeuble, et lui après avait une chambre de bonne.
Oui, oui. Mais là, il y a un peu une ressemblance avec, enfin, autrement, puisque pour Prévert, c'était quand même les balades aussi qu'il a fait beaucoup Prévert enfant.
Oui, avec son père.
Avec
oui.
son père. Hein, et on retrouve un peu autrement l'observation de ce qui se passe autour d'eux, la rue, enfin tous les gens qui
je pense que c'est les deux ont été jeunes,
jeunes,
quelque chose qui les a beaucoup marqué, l'observation,
l'observation dans la rue des... exactement, et donc ils avaient les capacités aussi pour l'observer, mais pas seulement pour retenir et puis pour en faire quelque chose. Alors aussi important, Marcel Carnet, ce qu'il dit, s'il n'y avait pas le cinéma, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie, c'est ça.
Bah oui. Voilà. C'est quand je disais aussi sur le cinéma était une religion pour eux.
Oui.
C'est que à l'époque, évidemment, donc ils sont nés avec le cinéma. C'est pour ça que je dis que c'est l'un des premiers cinéastes cinéphiles. Tout ce qui les intéressait, c'est contemporain de Carnet et Carnet à l'époque, c'était le cinéma avant tout, et tout le reste passait à côté, était anecdotique.
Oui.
Et d'ailleurs Carnet, on va lui reprocher plus tard, mais notamment pendant la guerre, on va lui reprocher un peu de s'occuper que de ses films, alors que parce qu'il est resté en France, alors que c'était la guerre.
Oui, alors ça aussi, le mot religieux, là, le mot religieux dans le bon sens du terme,
voilà,
évidemment.
Oui, j'allais le dire tout à l'heure.
Relié, religiaire, voilà. Ça veut dire relié, et la passion, et on dit, quand on parle de spiritualité, la spiritualité de la poésie. Mmh. Et c'est pas la spiritualité, évidemment,
parce qu'évidemment, Carnet
des religions...
N'était pas très catholique.
Non, heureusement, non, mais sans doute traditionnel. Donc dans le sens même, c'est ce quand on parle de la formule de Malraux, sera spirituel, dans le sens où c'est justement le dépassement par l'art, par la création, par l'esthétique, par la poésie, et donc c'est extrêmement terrestre, et on peut, c'est ce qu'il a réalisé, puisque tu dis les magiciens du cinéma, les merveilles du cinéma qu'il a pu réaliser, et ça, ce sont pas des miracles, mais c'est beaucoup mieux, voilà, c'est beaucoup mieux, et ça existe vraiment. Alors justement,
on a la preuve.
Oui, on en a la preuve sous les yeux, et j'espère aussi avec les parties d'entretien, enfin ce qu'on a pu entendre ce matin. Alors là aussi, rapidement, puisqu'on disait pour la fin de cette émission, je vous rappelle alors l'ouvrage, puisque je vais dire, donc on peut le trouver dans les bonnes librairies, allez-y. Ou au moins demander, donc Marcel Carnet, ciné-reporter, 1929-1934, l'éditeur La Tour Verte, texte de Marcel Carnet, présenté par Philippe Morisson. Alors, quelques minutes, on voulait peut-être évoquer Michel Souvet, puisque...
La dernière fois que je suis venu, ou l'une des dernières fois, c'était avec lui, c'était un ami à nous, qui est décédé il y a quelques années, et de manière, on va pas revenir dessus, c'est pas le moment, mais donc il m'avait confié une cassette. C'est quelqu'un qui était le, entre guillemets, le secrétaire
d'Arletty. Il a partagé les dernières 10 ans, peut-être, la vie d'Arletty.
Il a sorti plusieurs livres de conversations avec Arletty. Et un jour, il m'avait justement demandé de transférer une cassette d'entretien. Alors la qualité est pas très bonne, parce que ça date des années peut-être début 80, donc vous allez entendre, il y a un peu de souffle, mais c'est quand même intéressant. C'est un document inédit, et puis c'est intéressant d'entendre Arletty parler. Donc là, elle va parler de la beauté d'un tableau de Léon Fouquet. Vous allez voir, c'est étonnant. Et puis elle va parler de la santé de ses amis. Enfin, vous verrez. Je pensais pas mal de terminer par ça. Et puis de faire un coucou à Michel, parce
il est pas loin. Et puis on peut aussi, vous pouvez aller voir aussi, je pense, toujours sur Internet. Il y a beaucoup de petits documents. Il y a des choses sur
Tu veux dire sur lui.
Lui en particulier. Les bouquins. Hein, vous pouvez demander.
Ces conversations avec Arletty sont intéressantes.
C'est ça.
Notamment du vivant d'Arletty, on peut citer La Défense. C'est La Défense ou l'autre, je sais plus, j'ai un doute là d'un coup.
Le bouquin?
Le bouquin qu'il a fait avec Arletty. Non, c'est pas La Défense, c'est l'autre. Mais j'aurais mieux fait.
L'entretien?
L'autre livre, c'est pas La Défense.
Mais vous trouverez, si vous faites. Michel Soubet, voilà. Alors on écoute ça, c'est le numéro 2.
Le numéro 2.
Voilà. Donc on y va. On y va, Philippe, et puis on se dit au revoir.
Au revoir, oui.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt aux auditeurs, hein, puisque là, tout de suite, c'est avec La Jonction. Donc, pour Chronique Hebdo, donc on termine avec Michel Souvet, et puis après, vous avez l'émission de Rimes et de Notes sur Radio Libertaire. Et je vous rappelle, hein, pour ces documents, ce que vous pourrez entendre, c'est podcasté. Voilà, pour Chronique Hebdo, et écoutez maintenant Michel Souvet et Arletty.
Ce qui me reste va vers la beauté, de toute façon. J'ai pu passer par ce grand accident, éliminer les laideurs. Je ne reste qu'avec la beauté. J'accorde tout à la beauté. Là, vous enlèverez tout ce que vous voulez.
Est-ce que vous visualisez encore la beauté par les peintres impressionnistes, la beauté des paysages?
Oh, la beauté, pas spécialement. Je suis plus sensible encore à des visages. Plus encore sensible à des visages.
Par exemple, lesquels?
Oh non, par exemple, il y en a un que j'adore, qui est de Fouquet, qui est le Charles VII, que quand j'y voyais, j'allais le voir à peu près tous les mois au Louvre, toujours merveilleux, je l'adore, c'est mon préféré.
Alors là,
c'est même pas un roi, c'est un type de l'époque, ça compte pas comme roi pour moi. Mais est-ce qu'il y a malgré tout un monde plus célèbre que l'énigme du sourire de la Joconde de Léonard de Vinci? Je ne vois pas qui lui fait concurrence.
Et la nature, les arbres, les feuilles?
Ah, tout, je suis sensible à tout ça, alors, terriblement, oui.
À ce propos, quelle est votre fleur préférée?
Ma fleur préférée, je crois, c'est un peu naïf peut-être, je ne sais pas, mais c'est par amour pour ma mère qui adorait ça, le lilas.
Oui. Donc, dans la nature, votre couleur préférée? Le lilas, la fleur préférée?
Ah, le lilas, c'est la fleur, une branche de lilas. Ça plaisait beaucoup à ma mère, elle aimait le lilas. Et je l'aime à travers elle, et en effet, ça passe très vite, ça, oui. C'est fugitif, ça dure très peu de jours, très peu, un mois à peine, le lilas.
Vous avez été toujours assez philosophe, finalement.
Je suis née les fées, la fée philosophie était à ma naissance. Je me tape de tout, excepté de la santé des gens que j'aime, et disons dans ma famille, mon père, ma mère, ma grand-mère Mariette, mon frère Pierre et mes animaux, les chiens, les chats, les êtres, je m'en fous complètement, les autres, totalement indifférents. Je veux la santé de mes amis. Ce qui me touche le plus, ce qui peut m'intéresser, c'est la santé de mes amis.
Et quelle est la plus grande qualité pour faire face à la vie?
L'émotion. Si on n'a pas d'émotion, on est foutu.